Votre grand journal du soir jusqu'à 20h avec Mathieu Béliard sur Europe 1.
Avec les grandes voix qui sont en studio, bonsoir Michel Cotta.
Bonsoir.
Ça va Michel? Tout
ça
va bien? Robert Namias est avec nous également.
Oui.
Et Gérard
Carrero. Il n'y a pas de...
Bonsoir Mathieu.
Il n'y a pas de...
De Robert Namias sans Michel Cotta et l'inverse.
C'est ça, désormais vous êtes un binôme indissociable. On vous voit sur tout le paf. Ça va le livre?
Ça va très bien.
Tout ça se porte bien?
Ça va, ça va.
Les interviews sont bonnes? Ouais, oui, ça va, les questions
et
sont bien.
Et celle, celle d'Europe encore plus.
C'est important, est-ce qu'ils ont bien lu le livre avant? Bon, à force, on va réussir à le réimprimer, le livre.
C'est déjà fait.
C'est déjà fait. Voilà, voilà ce que c'est que le succès. Fake news, hein, je le rappelle, Michel Cotta et Robert Namias. Benjamin Muller.
Bonsoir Mathieu.
Vous
bonsoir à tous. Ah ouais, je l'ai lu.
Beaucoup aimé. Hein.
Ouais, j'ai beaucoup aimé. Non, je l'ai prévu de le lire ce week-end. Mathieu, vous êtes un salaud.
Comme chaque vendredi à 7h, on va faire avec vous, Benjamin, un bilan de la semaine du grand journal du soir. Comme je sais qu'il va se moquer de nous.
Non, pas du tout. Pas aujourd'hui.
Des sujets très différents chaque jour et on s'en réjouit. Tiens, beaucoup d'appels au 39-21 cette semaine.
Oui, il y a eu beaucoup d'appels effectivement pour parler en vrac de l'Italie, de la garde alternée, du PSG, de l'OM aussi ou encore d'Alexandre Benalla. Mais lundi, le sujet qui a fait exploser le standard, c'était ça.
Faut-il un référendum pour sortir de la crise des gilets jaunes et du grand débat national?
Donc c'est vrai, dans la foulée, de nombreux appels, c'est vrai Mathieu, j'en rajoute pas, dont celui de Bastien qui n'imagine pas que l'on puisse se passer d'une telle consultation.
C'est indispensable dans le sens où ce qu'attend l'opinion publique, ce qu'attendent les gens aujourd'hui, c'est une vraie consultation sur une vraie question, je pense, institutionnelle ou constitutionnelle.
Voilà, c'est indispensable, dit Bastien, mais ne croyez pas que 100% des appels allaient dans ce sens, pas du tout, Dominique par exemple.
Bah, la solution référendum, effectivement, ça ne fera avancer à rien, hein. Que les problèmes resteront totalement latents.
Bah oui, surtout que la vraie question, c'est de savoir quelle sera si la... référendum il y a. Bah la question, justement, le politologue Dominique Régnier, c'était toujours lundi.
Il faut juste alerter les auditeurs. Dès que la question sera choisie, déjà, on commencera à pas être content. Parce que ce sera pas la question que tout le monde voudra.
Ah oui, le français qui serait jamais content. Là aussi, c'est une fake news, j'ai l'impression. Ça mériterait un bouquin, tiens. Mardi, bonne nouvelle, les auditeurs qui appelaient étaient en pleine forme.
Comment allez-vous, Yann?
Ben super, très bien, la vie est belle.
Eh ben Yann, il fait plaisir, à mon avis. Il a insisté sur sa bonne humeur parce qu'il a compris que vous, Mathieu, mardi, n'étiez pas au top de la forme.
La question que je pose est simple. Avez-vous déjà pensé à mettre fin à vos jours?
Ah oui, effectivement Mathieu, j'espère que ça va mieux. Mais il faut en parler aussi, vous aviez raison. Mais quand même, Ombline à vos côtés a tenté d'inciter les auditeurs à appeler sur un sujet plus frais quand même.
Europe 1. Seriez-vous prêt à déguster un château lapin impérial, grande antilope ou antilope tibétaine? Oui.
Ouais, c'est un peu pointu, Ombline, votre histoire quand même. Allez, on passe à mercredi, autre sujet.
J'ai demandé très sérieusement en plus si vous, à titre personnel, vous adhérez à une ou plusieurs théories du complot.
Alors, bonne question, vrai sujet, théorie du complot, fake news, ça ferait un bon livre, tout ça. Le gars qui en rajoute. Et des auditeurs comme Max, 100% sans langue de bois.
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, moi, je suis concrètement théoricien du complot, je pense comme beaucoup.
Alors là, on tend l'oreille, à quoi croit-il ou à quoi ne croit-il pas? Les martiens nous dirigent-ils? Shakespeare a-t-il existé? Rien de tout ça.
Pas que les théories de gouvernance mondiale, interplanétaire, avec des extraterrestres qui nous contrôleraient ou des reptiliens. Non, pas du tout. C'est plus cultiver le doute. Quand, par exemple, Benalla, son coffre, a disparu, je me pose des questions. Je me dis, comment, pourquoi, où?
Oui, en fait, Max, il n'est pas théoricien du complot, il ferait juste un excellent journaliste d'investigation. Allez, on passe à jeudi.
Emmanuel Macron est-il écolo? C'est la question que nous posons. Est-il vraiment écolo?
Oui, vraiment, sinon ça n'a pas de sens. Appel de Christophe hier soir.
Clairement, Emmanuel Macron est-il vraiment écolo? Christophe?
Non, pas du tout.
Alors, ne croyez pas que Christophe s'est contenté de ce non comme ça. Non, Christophe a appelé pour suggérer une réforme facile au président, remplacer le transport routier par du transport fluvial, chiffre à l'appui.
Un litre de pétrole, pour donner un exemple, hein, permet de déplacer sur un kilomètre 9 tonnes de produits par la route, 50 tonnes de produits par le rail, 125 tonnes de produits par la voie d'eau. Et on émet 4 fois moins de CO2. C'est des solutions qui sont assez simples.
Voilà, quand les auditeurs deviennent nos experts, merci à Christophe, c'est très fort. Je termine en disant un mot des complots, j'ai quand même beaucoup aimé cet appel de Marie-Josée.
Les gens n'ont pas confiance dans la société parce qu'ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Et ils n'ont pas confiance en eux-mêmes parce qu'ils ne savent pas mettre du discernement entre l'information qu'ils reçoivent et la réalité.
Voilà le bon sens, signé Marie-Josée.
Et je le redis, je me souviens que Marie-Josée était la première à nous appeler dans ce débat-là et que c'était une analyse vraiment... Écoutez en podcast, vous allez voir Marie-Josée, son analyse, son regard sur aussi la jeunesse, sa façon de consommer l'actualité. Je retiens dans les théories du complot, celle-là je ne la connaissais pas, Shakespeare n'a pas existé.
Eh bien non, elle existe celle-là. Ah, regardez, oh mon ami, elle existe bien.
Oui, bien sûr.
Je ne connaissais pas du tout ça. Ça va me faire mon week-end. Merci beaucoup, Benjamin Muller. Il est 19h27.
Europe 1.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est parti jusqu'à 20h pour le débat avec les grandes voix. Nous allons revenir sur la crise, d'abord sur la crise italienne, la crise diplomatique entre Paris et Rome, avec Michel Cotta, avec Robert Namias, avec Gérard Carrérou. Restez bien sur Europe 1.
Vous écoutez Mathieu Béliard sur Europe 1, votre grand journal du soir avec les grandes voix d'Europe 1 le vendredi soir. Michel Cotta, Gérard Carrérou et Robert Namias.
Nous allons revenir sur cette crise italienne, crise diplomatique entre Paris et Rome après... pas mal d'échanges, pas mal d'amabilité. Le rappel de l'ambassadeur de France à Rome, le rappel à Paris, avec une dramatisation ces dernières 24-48 heures de la situation. D'abord, est-ce que c'est grave, docteur ? C'est la première question, finalement, Gérard.
Rassurez-vous, il n'y aura pas, je fais un pronostic, il n'y aura pas de guerre entre la France et l'Italie. Bon, déjà, parce qu'il faut se rassurer, il y a des endroits dangereux dans le monde. Non, il y a un peu de tout là-dedans. Il y a du sérieux, on va en parler. Il y a de la provocation, un peu des deux côtés. Il y a de la communication, un peu des deux côtés. Et puis il y a un peu, comme il s'agit de l'Italie et de la France, il y a un peu de comédia dell'arte. On voit des rôles, par exemple aujourd'hui, on voit le ministre italien qui dit « Je convoque !» Je ne sais pas comment on le dit en italien, mais « Je convoque le ministre Castaner à venir demain à Rome !» Et Castaner qui prend un air de théâtre, qui répond « On ne me convoque pas !» Enfin bon, c'est des jeux de rôle. Bon, mais cela dit, sur fond, le fond quand même sérieux, c'est qu'il y a la France est d'un côté et l'Italie de l'autre quand il s'agit effectivement des élections européennes qui se profilent. Et on voit bien que la France, avec Emmanuel Macron, c'est le côté défendons l'Europe, Europe, encore plus d'Europe, alors qu'on a affaire maintenant à des Italiens qui sont ralliés un peu à l'axe avec les Polonais et avec d'autres pays qui sont plutôt dans un axe populiste et très souverainiste, très réservé à l'égard de l'Europe. C'est ça le fond des choses.
Robert ?
Moi, je pense qu'effectivement, il n'y aura pas de guerre, mais la crise est profonde et surtout, elle est durable. Parce que là, on est en présence, d'abord, comme vient de le dire Gérard, de deux conceptions de l'Europe, de la société, de la vie politique, qui sont radicalement opposées. Qui a commencé ? D'une certaine manière, il faut bien le reconnaître, c'est plutôt Macron.
La lèpre nationaliste.
Pardon. C'est plutôt Macron qui, pratiquement, dès le mois de juin, au moment de l'arrivée au pouvoir de cette étrange coalition italienne, l'a dénoncé. La vérité, c'est quand même que Salvini, c'est un fasciste. Ah, vrai. Maillot, qui a rencontré Chalençon la semaine dernière, c'est plutôt un rigolo. Maillot, le rigolo. Mais Salvini, c'est un vrai fasciste. Et au fond, cette crise l'arrange et le sert d'une certaine manière en interne. Il y a beaucoup de politique intérieure italienne dans cette affaire et de concurrence entre le mouvement 5 étoiles et le mouvement de la Ligue, de Salvini, pour qui, in fine, aura le pouvoir et le pouvoir tout seul. Parce qu'on voit bien que cette coalition, elle n'est pas faite pour
durer. Elle est fragile. Il faut rappeler que c'est une coalition entre deux mouvements et qu'ils sont en compétition en interne, bien sûr.
Dans cette opposition entre les deux, Salvini, vraisemblablement, a les meilleures armes, les meilleures cartes. Et d'une certaine manière, cette crise à laquelle, finalement... Macron, dans laquelle il a joué un rôle, c'est d'abord Salvini qui l'organise en interne pour prendre le pouvoir en interne en Italie. Et de ce point de vue-là, c'est quand même assez grave.
Michel ?
Oui, moi je suis préoccupé par la situation italienne depuis cet été. Et je vais vous dire pourquoi. Je vous raconte une anecdote. Simplement, dans le village où je passe mes vacances, généralement en Italie, d'un seul coup, les citations de Mussolini ont refleuri à la façade des cafés. Et ça m'a beaucoup étonné l'année dernière, c'était l'été dernier, et on voit une banderole signée Mussolini, et je demande au patron du bistrot, « Cosace, qu'est-ce que c'est ça ?» Et il me dit, « Ah ben ça a toujours été là !» Moyennant quoi, moi je ne l'avais jamais vu depuis 10 ans. Bon. Et puis la situation italienne me passionne, parce qu'elle n'est pas tellement loin de la situation française. On peut la connaître, après tout, demain. On peut connaître demain une jonction entre un parti d'extrême droite, de droite, ce que vous voulez, du mouvement national, Et on s'aperçoit bien que chez les, dans les manifestations que nous connaissons en ce moment, l'extrême gauche n'est jamais très loin. Alors de temps en temps, ils se bagarrent entre eux, c'est vrai, mais de temps en temps, ils sont ensemble sur les carrefours. Et ça, moi, ça me préoccupe beaucoup parce qu'on voit bien comment dans ce climat européen, justement, où l'Europe est quand même un peu coupée, coupée en deux schématiquement, entre eurosceptiques populistes et europhiles qui se débrouillent comme ils peuvent, cette situation italienne, pour moi, me laisse craindre d'abord un rapprochement des deux extrêmes et ensuite, pourquoi pas, la possibilité, à la suite d'une élection ratée par l'un ou par l'autre, d'une arrivée
Michel,
au pouvoir des deux.
Ce que dit Michel, est très, je suis tout, assez d'accord, même très d'accord sur ce qu'elle a dit. Sur, au fond, si on, fait, si on essaye de faire une identification avec la situation française, c'est pas, il y a eu une rencontre entre le représentant des cinq, du mouvement dit 5 étoiles et le mouvement des Gilets jaunes. Et c'est assez logique qu'il y ait eu une rencontre entre les Gilets jaunes et les 5 étoiles. Parce que les 5 étoiles, c'est un mouvement qui, au départ, ressemble un peu au mouvement des Gilets jaunes.
Beaucoup, oui.
Et, qui, où il y, a des, y avait
avec
des
un
gens...
leader unique et plus amusant,
oui,
quand même.
Mais je veux dire, il y a des connivences. Il y a des connivences entre les deux, ou des liaisons entre les deux mouvements. Et de la même manière, on pourrait dire, et tu disais fasciste concernant Salvini, je ne le dirais pas comme ça, si tu veux, je ne dirais pas qu'il est fasciste, parce que fasciste, ouais, c'est très connoté dans l'histoire.
Oui, mais l'héritage
mais on peut le dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des connivences entre le parti de Marine Le Pen et Salvini, et des connivences entre les deux autres. Et comme les deux Italiens se sont rapprochés et ont fini par gouverner, on ne pourrait pas exclure, après tout, et là, ce n'est pas nécessaire d'écrire un roman de fake news, parce que ça peut être des good news, on ne peut pas exclure qu'un jour, on puisse avoir une pourquoi pas une coalition entre une Marine Le Pen avec un
real
grand...
news.
Oui,
mais pas good news, real news.
Oui, good news au sens, au sens authentique, authentique news. True news, on devrait dire plutôt. On pourrait très bien imaginer une coalition de ce style. Effectivement, donc, il ne faut pas prendre ça à la rigolade, même si parfois les personnages ou les postures... Je disais tout à l'heure, il y a des côtés un peu... Bon, bah, par exemple...
Bah, quand Salvini arrive en tenue de gendarme...
Oui, non, mais il y a beaucoup de choses qui font... Il y a beaucoup de choses qui font... Mais vraiment, d'ailleurs... Alors bon, c'est vrai que la provoque la plus ultime, ça a été de venir en France. Alors évidemment, tout le monde a le droit d'entrer en France. C'est la libre circulation des hommes et des idées. Hein. Bon, il est arrivé tout seul. Je ne sais pas si c'est arrivé avec sa voiture ou son chauffeur. Et il est allé rencontrer le leader des...
Une délégation.
Un de ceux, disons, qui se mettent en avant.
Celui pour qui être demandait le général de Villiers.
Et qui voulait...
Il y avait aussi un représentant de la liste Ralliement d'Initiative Citoyenne... que nous avions au téléphone hier. Il y avait plusieurs gilets jaunes qu'on a reconnus sur la photo.
Il y avait une volonté de se payer Macron, quoi, c'est clair. Alors, on me dirait, c'est là qu'on vient au point de départ. Macron les avait peut-être un peu sonné très fort, donc...
Michel,
au point d'arrivée, il y a aussi une entreprise sans doute de diversion du côté de l'Italie pour éviter de montrer qu'elle est en récession. C'est vrai qu'à la veille du combat européen, il pourrait démontrer que cette récession est rapide, ne durera pas, ou la mettre sous le boisseau, il le ferait. Et d'une certaine façon, cette mise en cause, cette mise en scène de la rencontre est tout à fait intéressante.
Le jeu politique de part et d'autre, 19h37.
Europe 1.
Nous revenons dans quelques secondes sur cette crise italienne, crise diplomatique, franco-italienne, pardon, entre Paris et Rome. Avec les grandes voix, ce soir, il est 19h37.
Vous écoutez Mathieu Béliard et le vendredi soir, les grandes voix d'Europe 1. Michel Cotta, Gérard Carrérou et Robert Namias.
Et notre débat sur la crise diplomatique entre la France et l'Italie, essayer de voir aussi le vrai du faux, quelle est la part de comédie. Tiens, quand on en parlait à l'instant avec Michel Cotta, il y a peut-être de l'esbrouf côté italien par rapport à une situation économique inquiétante.
Oui, c'est pas de l'esbrouf, mais c'est de la vraie diversion et l'enjeu pour Salvini notamment est absolument capital parce que, encore une fois, moi je le répète, je pense que la coalition 5 étoiles, la Ligue, n'est pas faite pour durer. En revanche, la prise de pouvoir de l'un des deux, et en l'occurrence vraisemblablement de Salvini, elle est vraisemblablement inscrite dans les mois ou les deux années qui viennent. Mais pour ça, il faut quand même avoir des résultats qui soient acceptables par le peuple italien. Or, les résultats ne sont pas bons. Ils sont même très très mauvais. On voit que les chiffres annoncés pour la croissance de 2019, toute l'année 2019, seraient de 0,2% pour l'Italie, ce qui montre quand même que le fait qu'ils aient lâché les vannes au début, à la demande d'ailleurs, des gilets jaunes, du mouvement 5 étoiles, ont mis l'Italie dans une situation économique extrêmement difficile. Et donc, Salvini a doublement besoin de se réassurer, d'une part en faisant porter le chapeau de ses mauvais résultats économiques au mouvement 5 étoiles, et puis deuxièmement, et alors, accessoirement, de le faire porter exactement sur le dos de l'Europe. Absolument. Parce que campagne de Salvini, on la voit bien. En interne, c'est moi tout seul, j'aurais pas ces résultats parce que là, je suis empêché par le mouvement 5 étoiles. Et en externe, avec cette Europe, je ne peux rien faire.
Mais c'est gagner les... Salvini, c'est très clair, c'est gagner les élections européennes. Je parle en Italie. Hein. Gagner les élections européennes, dépasser largement les 5 étoiles, et ensuite aller à des élections anticipées où il prendra l'ascendant sur le mouvement 5 étoles. On peut imaginer que ça soit cette situation.
Michel Cotta.
Avant que la situation économique dont tu parlais, Michel, soit tellement dégradée que les gens peuvent à ce moment-là se retourner et voter
autrement. C'est pour ça que c'est loin d'être un truc secondaire. Cette agression réciproque, cette agression italienne contre la France de cette semaine, c'est loin d'être secondaire. Parce que, à partir du moment où un pays de l'Europe du Sud, connu, fondateur de l'Europe, prend ses distances par rapport à la France, et prend ses distances nettes vis-à-vis de l'Europe d'Emmanuel Macron, à un moment où cette Europe, en effet, ne va pas très bien. Hein. On voit partir la deuxième économie de l'Europe, qui est l'Angleterre, comme si c'était rien. Ce ne sera pas rien. Bon, donc, cet affrontement entre les deux est quand même significatif d'une césure, d'une cassure, et d'une césure des pays européens.
Pour revenir sur cette question-là, on voit quel est l'intérêt des Italiens dans cette crise-là. Michel, un peu plus tôt, vous parliez justement du clivage entre progressistes et populistes. Emmanuel Macron aussi, il le joue ce jeu-là. Il a envie d'installer ce clivage-là.
Évidemment, c'est même lui qui l'a codifié, qui l'a installé. Ça date de plusieurs mois. Il a fait des élections européennes un enjeu entre les progressistes, dont il est le chef de file, jouant aussi sur le fait que l'Allemagne, du fait de la situation de la chancelière allemande, l'Allemagne est un peu moins présente
dans le jeu. En matière de progressisme.
Donc les progressistes, par rapport à l'Europe, ceux qui veulent avancer, ceux qui veulent faire des choses, par rapport aux vieux conservateurs nationalistes, voire populistes. Enfin, tous les épithètes ont été lancés. La lèpre a été le summum. Mais c'est ça, il a voulu ce clivage. Et il s'est dit, si je réussis ce clivage, et d'ailleurs, il peut peut-être le réussir, on n'en sait rien.
En attendant, chère Grandevoix, je voudrais vous demander aussi, parce que Michel l'a évoqué, je trouvais ça très important, la comparaison entre nos deux pays et ces deux situations. Hier, nous avions comme invité exceptionnel Matteo Renzi, l'ancien président du Conseil italien, qui est, à sa manière, ce qu'a été par la suite Emmanuel Macron. Il a dégagé le vieux monde politique, il s'est installé.
Et il est tombé très vite.
Sur un référendum, au passage.
Peut-être pas.
Préciser. Cette comparaison-là, je lui posais la question hier, mais cette comparaison-là, elle est judicieuse, elle tient.
Oui. Matteo Renzi,
il faut s'inquiéter pour la suite.
Renzi, Macron.
Toute la politique de Macron va consister à montrer que, c'est pas hasard, dans la situation française, vous avez le mouvement 5 étoiles qui est proche des Gilets jaunes. Ils l'ont montré physiquement. Et vous avez Salvini qui est proche de Marine Le Pen. D'ailleurs, elle le revendique. C'est devenu son nouveau grand homme, Salvini. Bon, très bien. Macron est contre les deux. Enfin, contre les Gilets jaunes, oui, d'une certaine manière. En tous les cas, il ne peut pas ratifier ce que demandent les Gilets jaunes. Et bien évidemment, il est opposé à Marine Le Pen. Donc, effectivement, il installe là un combat très très clair. C'est plus seulement entre les progressistes et les conservateurs, les réactionnaires, les populistes, etc. C'est vraiment une opposition claire entre ce qui constitue l'alliance italienne, qui donc transposé en France serait gilet jaune Marine Le Pen. Et puis, ce qu'il représente lui, avec l'ensemble des partis européens dits libéraux.
Alors, comme en Italie, ça risque toujours de finir en rigolade, comme ça, exception faite du fascisme.
Mussolini, c'était une drôle de rigolade.
C'est pour ça que je dis
exception.
Mais alors, Berlusconi devient le sauveur. Oui. Alors, je ne sais pas si Matteo Renzi l'a dit hier, mais du coup,
l'inoxydable.
Mais sur Matteo... Et après tout, qui peut se dire, les résultats étant mauvais, que Berlusconi n'a aucune chance.
Mais sur Matteo Renzi, vous posiez la question, est-ce qu'effectivement, des véritables ressemblances. Et souvenons-nous de ce que disait la presse, et la presse française, on a été bluffés par Matteo Renzi. Ah, oui. Et malheureusement pour Matteo Renzi, dans un système, s'il avait été président de la République, absolument, avec un système à la française, il serait toujours, absolument, président de la République et en situation de gouverner. Il a été tué par le système politique italien, qui est un système qui ressemble beaucoup plus à la 4e République française.
Il faudra y réfléchir au moment où on pense à un référendum institutionnel.
19h46.
Europe 1.
Vous restez bien sur Europe 1. Tiens, au passage au sujet de Matteo Renzi, allez écouter le podcast sur le compte Twitter d'Europe 1 parce que son analyse est importante. Sa honte exprimée et le qualificatif de stupidité. C'est étonnant d'un ancien président du Conseil de parler ainsi de ses successeurs. Allez l'écouter sur Europe 1.fr, bien sûr. 19h46, le débat continue avec les grandes voix.
Vous écoutez Mathieu Bellière sur Europe 1, les grandes voix d'Europe 1 le vendredi soir, Robert Namias, Gérard Carrérou et Michel Cotta.
Nous allons parler à présent, dernier tour de table, de la situation politique française. Michel Cotta, on a évoqué cette semaine, on a utilisé le mot remontada pour Emmanuel Macron dans les sondages. On peut s'y fier.
Oui, on peut considérer que 6 points une semaine et avant précédé de 5 points ou au contraire, peu importe. Il a stabilisé la machine et retrouvé son niveau d'avant les gilets jaunes. Mais on ne peut pas dire évidemment que tout soit fini. D'abord, regardez, on est tous encore à se dire qu'est-ce qui se passera demain. Bon, 12e acte, ça va quoi. C'est beaucoup.
13e.
Donc on sait 13e acte. Donc on sait pas, un, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Deux, on ne sait pas les vrais résultats de ces rencontres générales, de cette discussion générale. Moi, je trouve ça, j'y prends un plaisir extrême.
À regarder.
Parce que je vois des gens très républicains.
Nous, les jeunes hier, c'était génial.
Tu vois des gens. Il y a une espèce de vitalité
drôle,
même dans la société française qui est formidable et moi, ça me redonne confiance.
Mais comme le temps est court, je dirais, acte 1, ça a été jusqu'à Noël, victoire des Gilets jaunes. Je parle en termes politico-médiatiques, victoire pour les Gilets jaunes. Acte 2, depuis l'ouverture du débat, etc., et depuis le discours qui avait permis à Macron de revenir dans le jeu, on peut dire qu'il est en train de gagner l'acte 2.
Il y aura un acte 3.
Mais l'acte 3, on ne voit pas comment il va sortir. On ne voit pas la sortie.
Il lance des
bouteilles à la mer, référendum en même temps que les... Et puis après, on nous dit maintenant ce soir, on nous dit non, c'est pas, ça ne sera pas le référendum en même temps que les européennes. Et puis on ne sait même pas si ça sera... Donc là, on voit bien qu'il cherche. Donc pour l'instant, l'acte 3 n'est pas joué.
Robert Namias, a partout la balle au centre ?
Oui, non, moi je pense que c'est le... Il faut noter une chose, c'est que c'est quand même le deuxième rebond en un an et demi. Ce qui est là, pour le coup, alors, est absolument sans précédent dans la 5e. Tout président qui s'est enfoncé n'est jamais remonté. Pas plus Sarkozy que Hollande. Et même Chirac, avant lui, n'était pas très bien à la fin de son deuxième mandat. Et là, honnêtement, on l'a oublié, mais il y avait eu un rebond très important entre octobre 2017 et janvier 2017, où il était quasiment à 50% de taux de popularité. Et là, quand il était arrivé à 23% le mois dernier, beaucoup se sont dit « c'est terminé, c'est fini ». Là, il est encalaminé, il ne pourra plus rien faire, il ne pourra plus réformer, il ne pourra plus rien faire. Ce rebond, quand même, quel que soit, le recul et la distance qu'il faut garder à l'égard des sondages, est tout à fait significatif du fait que les Français ne trouvent pas ailleurs de quoi alimenter une éventuelle perspective d'avenir. Ça, c'est très très clair.
Il est clair que s'il y avait eu une gauche de gouvernement avec un leader, ou une droite de gouvernement avec un leader, je pense que la situation serait complètement...
Oui, mais il n'aurait pas été élu. Oui, mais Macron n'aurait pas été élu il y a deux ans s'il y avait eu un leader.
Il profite du vide, sidéral.
Il n'était absolument pas prévisible. Il s'inscrit dans ce contexte de manque total d'alternance et d'alternatives possibles.
Clairement, en face, il manque d'adversaires.
Ce qui est à la fois un avantage et à la fois un inconvénient. Un avantage, parce qu'effectivement, si maintenant on mettait une élection Macron, on faisait une élection Macron, Marine Le Pen, le jeu est très ouvert pour Macron, évidemment. Et l'inconvénient, qui est que il apparaît seul, il apparaît quand même, y compris dans ce débat avec les Français, alors que les autres ministres ont des débats, que le Premier ministre a des débats, mais lui, du coup, il apparaît assez seul. Donc c'est
simplement un
avantage
mot,
et inconvénient.
Un mot, puisqu'on parle de la solitude du président, de ce qui a été son entourage, et on a encore eu pas mal de rebondissements cette semaine, ces derniers jours, autour de l'affaire Benalla, qui n'en finit pas. Est-ce qu'il faut... on va suivre évidemment les procédures, la justice qui fait son travail, après la commission d'enquête et, au Sénat aussi, mais politiquement, là, pour Emmanuel Macron, ça va commencer à poser un souci encore
écoutez,
ou pas ?
Dès l'instant où ça dure, et il y a des éléments nouveaux. C'est l'hydre de Lerne. On peut dire, on a coupé la première tête, bon, ça va aller, la deuxième repousse. Bon, là, on en est maintenant à la 5e ou 6e ou 7e tête. Et à chaque fois, alors, on a oscillé depuis le début entre est-ce que c'est vraiment une affaire d'État ou est-ce que c'est simplement l'affaire d'un type qui a pris la grosse tête, qui a pété les plombs, etc. À chaque fois... On pensait qu'on avait trouvé la vérité, on pensait plutôt que c'était le type qui avait pété les plombs. Et puis on découvre les tentacules, parce que là je prends une autre comparaison, les tentacules de la pieuvre nous amènent maintenant chez l'oligarque russe, qui lui-même est lié à la mafia, nous amène. On voit quand même des rencontres extraordinaires. La chef, je ne la connais pas cette dame, mais la chef de la sécurité de Matignon, du Premier ministre, reçoit chez elle, alors qu'il est déjà mis en examen, etc., reçoit chez elle Benalla, avec son copain Crass, qui était lui-même aussi déjà à l'Élysée. Et le mari, on apprend en même temps que le mari de cette femme, qui est sans doute un type très bien, mais enfin, bon, qui est un militaire des forces spéciales, et lui-même très proche des sociétés. Donc, alors là, les gens commencent à se dire ça sent quand même autre chose que la simple histoire d'un type qui a perdu les plombs, quoi.
Robert ?
Oui, moi je reste un peu, vous savez, la semaine dernière, je posais la question que pose Gérard, c'est effectivement est-ce que, alors là, pour le coup, on est dans la comédia dell'arte totalement improvisée et qui amuse certains et qui en ennuie beaucoup d'autres. Je n'arrive pas à savoir l'opinion s'intéresse encore vraiment à cette affaire. Ce qui est sûr, c'est que on voit bien que les milieux de la sécurité sont toujours des milieux un peu spéciaux, un peu particuliers, et que les intérêts sont difficiles à trouver, à démanteler. Bon, voilà. Moi, je n'ai pas beaucoup d'avis sur cette affaire, en fait.
Le seul avis, moi non plus, je n'ai pas beaucoup d'avis sur cette affaire.
Ah, c'est dur entre nous d'avoir un avis.
Voilà. Là,
il y a une question de justice qui se pose.
On ne peut que compter les
choses. La seule affaire, justement, et un peu ce que dit Robert, oui, on connaissait tous les problèmes de sécurité. On sait bien qu'il n'y a pas que des gentils garçons dans les
ni des
milieux.
Des dames, apparemment, ni des gentils dames, apparemment. Voilà, c'est
enfin,
le milieu de la sécurité.
Beaucoup de gens pensaient que peut-être, avec Macron, ça pouvait être différent. Eh bien non, c'est pas...
Non, ça pas différent.
Ça ressemble aux pires affaires barbouzardes qu'on a connues en d'autres périodes.
Et on va suivre le feuilleton avec un point d'interrogation, Robert, effectivement, sur l'intérêt porté à
alors,
cette
Esther
affaire Benalla,
Benbassa, si sénatrice Benbassa, je l'ai entendue dire, mais ça n'engage qu'elle, mais elle est très
c'est
copine
pas un oracle,
avec...
Quand
elle
même,
va sur le... Non, mais elle va sur... Non, tu sais pas ce que je voulais dire. Elle va dans les ronds-points, etc., elle rencontre les Gilets jaunes, et elle dit, elle, mais je ne sais pas si c'est vrai, elle dit que les Gilets jaunes sont passionnés et parle beaucoup de l'affaire Benalla. Et alors, je ne sais pas si c'est...
On organisera un débat avec les auditeurs, tiens, justement, sur cette question-là à l'occasion. Merci beaucoup, mes chers Grandes Voix, Michel Cotta, Robert Namias. Je ne sais pas pour refaire la promo, hein, mais j'ai pas dit que Fake News, c'était chez Robert Laffont tout à l'heure. Donc, il faut le préciser. Robert Namias, Michel Cotta, Gérard Carrero aussi. Michel, la semaine prochaine, on sera ensemble avec Charles Villeneuve et Catherine Ney en public au studio Pierre Bellemare. Allez vous inscrire sur Europe1.fr, allez le faire maintenant. N'hésitez surtout pas parce que les places partent vite. C'était génial la première fois.
La deuxième sera très bien, et jamais 203, etc. Ouais, non, c'était très sympa. Vous pourrez justement questionner les grandes voix vendredi prochain. 19h56. Émilie Mazoyer, bonsoir.
Salut Mathieu Béliard.
Comment ça va Émilie?
Ça va bien, bon week-end.
Ben ouais, c'est bien parti là. C'est bien parti. Bon, musique.
Oui, alors musique avec un sujet un peu compliqué pour les gens qui aiment la musique ce soir. C'est les enfants. Les enfants qui ont très mauvais goût en musique, c'est atroce. Et je vous ai trouvé enfin un album de musique pour enfants qui est aussi d'ailleurs un spectacle et que vous allez pouvoir partager avec vos enfants sans que ce soit un calvaire. Ça s'appelle L'école des fables et un des chanteurs, c'est Doc Gynéco.
Je suis le roi des animaux. Si tu me crois pas.
C'est un super babysitter, non, Doc Gynéco? Qu'est-ce que vous en dites?
Avec ou sans détecteur de fumée, si j'ose dire.
Oui, ça fait dormir les gosses.
Émilie Mazoyer, écoutez, vous allez tenir jusqu'à 22h comme ça.
Sans problème.
C'est sur Europe 1, en musique évidemment. Excellent week-end à toutes et à tous. Bon week-end, Omblin.
Bon week-end, merci Mathieu Béliard. À lundi, 17h.